Les items ou presque, l'ancien ministre de la Santé fait la course en tête et il est, selon les Français de droite qui ont été sondés, le plus à même d'atteindre le deuxième tour. De quoi donner confiance à son équipe, le député Pierre-Henri Dumont.
Xavier Bertrand est le mieux placé pour l'emporter. La porte de Xavier est toujours ouverte et la droite est une grande famille. Il est temps de réunir cette famille derrière un seul candidat.
Mais Valérie Pécresse talonne Xavier Bertrand et Michel Barnier vient perturber ce duel. Il crante, tout est possible, assure une députée qui le soutient. Samedi, les militants trancheront la méthode de départage, soit une primaire semi-ouverte, soit un congrès réservé aux adhérents LR. Si c'est un congrès, Xavier Bertrand pourrait s'y soumettre.
Radio G, 101.5 FM.
Bonjour Flora.
Bienvenue sur votre nouvelle émission Tout compte fait, qui va vous faire découvrir tout au long de la saison radiophonique des contes pour petits et grands. Nous nous retrouverons un jeudi sur deux à 9h10 sur Radio G, sur 101.5 FM. Et vous pourrez bien sûr nous réécouter en podcast juste après la diffusion sur le site radio-g.fr à la rubrique de l'émission. Au programme du jour, nous allons vous raconter trois histoires. Daphné vous racontera le conteur d'Henri Gougaud. Moi-même, je vous raconterai La femme jardin de Muriel Blanc. Et toutes les deux, nous vous raconterons un conte lituanien rebaptisé pour l'occasion Le pois et le haricot. L'émission sera bien sûr ponctuée d'une petite sélection musicale en écho avec les histoires racontées. On vous souhaite une bonne découverte.
Tout compte fait.
Le conteur d'Henri Gougaud. Il était une fois un homme nommé Yacoub. Il vivait pauvre, mais sans souci, heureux de rien, libre comme un saltimbanque et rêvant sans cesse plus haut que son front. En vérité, il était amoureux du monde. Or le monde alentour lui paraissait morne, brutal, sec de cœur, sombre d'âme. Et il en souffrait. Comment, se disait-il, faire en sorte qu'il soit meilleur ? Comment amener à la bonté ces tristes vivants qui vont et viennent sans un regard pour leurs semblables? Il ruminait ces questions par les rues de Prague, sa ville, errant et saluant les gens qui ne lui répondaient pas. Or un matin, comme il traversait une place ensoleillée, une idée lui vint. « Et si je leur racontais des histoires » pensa-t-il. « Ainsi moi qui connais la saveur de l'amour et de la beauté, je les amènerai assurément au bonheur. » Il se hissa sur un banc et se mit à parler. Des vieillards, des femmes étonnées, des enfants firent halte un moment pour l'écouter, puis se détournèrent de lui et poursuivirent leur route. Yacoub, estimant qu'il ne pouvait changer le monde en un jour, ne se découragea pas. Le lendemain, il revint en ce même lieu et à nouveau lança au vent, à voix puissante, les plus émouvantes paroles de son cœur. De nouvelles gens s'arrêtèrent pour l'écouter, mais en plus petit nombre que la veille. Certains rirent de lui. Quelqu'un le traita même de fou, mais il ne voulut pas l'entendre. « Les paroles que je sème germeront, se dit-il. Un jour, elles entreront dans les esprits et les éveilleront. Je dois parler, parler encore. » Il s'obstina donc et, jour après jour, vint sur la grande place de Prague, parler au monde, conter merveilles, offrir à ses pareils l'amour qu'il se sentait. Mais les curieux se firent rares, disparurent, et bientôt il ne parla plus que pour les nuages, le vent et les silhouettes pressées qui lui lançaient à peine un coup d'œil étonné en passant. Pourtant, il ne renonça pas. Il découvrit qu'il ne savait et ne désirait rien faire d'autre que conter ses histoires illuminantes, même si elles n'intéressaient personne. Il se mit à les dire les yeux fermés, pour le seul bonheur de les entendre, sans se soucier d'être écouté. Il se sentit bien en lui-même et désormais ne parla plus qu'ainsi, les yeux fermés. Les gens, craignant de se frotter à ses étrangetés, le laissèrent seul dans ses palabres et prirent l'habitude, dès qu'ils entendaient sa voix dans le vent, d'éviter le coin de place où il se tenait. Ainsi passèrent des années. Or, un soir d'hiver, comme il disait un conte prodigieux dans le crépuscule indifférent, il sentit que quelqu'un le tirait par la manche. Il ouvrit les yeux et vit un enfant. Cet enfant lui fit une grimace goguenarde et lui dit en se hissant sur la pointe des pieds « Ne vois-tu pas que personne ne t'écoute ? Ne t'as jamais écouté et ne t'écouteras jamais ? Quel diable t'a donc poussé à perdre ainsi ta vie ?»« Eh bien, j'étais fou d'amour pour mes semblables, » répondit Yacoub. « Et c'est pourquoi, au temps où tu n'étais pas encore né, m'est venu le désir de les rendre heureux. »« Eh bien, pauvres fous, le sont-ils ?»« Non, » fit Yacoub en hochant la tête. « Alors pourquoi t'obstines-tu ? » Yacoub réfléchit un instant. « Je parle toujours, certes, et je parlerai jusqu'à ma mort. Autrefois, c'était pour changer le monde. » Il se tut, puis son regard s'illumina et il dit encore « Aujourd'hui, c'est pour que le monde, lui, ne me change pas. »
Tout compte fait.
There is fiction in the space between the lines on your page of memories. Write it down, but it doesn't mean you're not just telling stories.
Sur Radio G, je suis Flora et je vais vous raconter la femme jardin. On raconte en Géorgie qu'un jeune homme bien fait, bien né, bien fortuné possédait à côté de sa maison un magnifique jardin potager. Tous les jours, quel que soit le temps, il venait s'asseoir sur un banc pour regarder ce qui poussait. Lui ne s'occupait de rien. Seul un jardinier zélé prenait soin des plates-bandes de légumes. Or, un jour, tandis que le jeune homme était assis comme à l'accoutumée sur son banc pour admirer son jardin potager, il crut voir entre une plate-bande de fenouil et une plate-bande de poireaux comme une pelure d'oignon. Il appela aussitôt son jardinier et lui donna l'ordre de nettoyer immédiatement. Très en colère, ce jeune homme bien fait, bien né, très fortuné rentra chez lui.
Le jardinier ramassa ce qui n'était pas du tout une pelure d'oignon, mais une feuille de papier. Le jardinier ne savait pas lire. Il froissa la feuille et la jeta dans une poubelle. Quelques heures plus tard, de cette même poubelle surgit une femme, d'une fraîcheur exquise. Une femme jardin. Légère, gracieuse, elle se promena au milieu des plates-bandes, tandis que le jardinier, émerveillé, ne la quittait pas des yeux. Le lendemain matin, le jeune homme bien fait, bien né, très fortuné, mais solitaire, assis sur son banc, rêvait. Les yeux rivés sur les plates-bandes. À la vue de la femme jardin si belle, si mystérieuse, il eut pour la première fois de sa vie terriblement envie de se marier. Il se mit à courir comme un fou au milieu des plates-bandes, et pendant qu'il courait, il se disait oh, « Cette femme doit s'appeler Rose, Cannelle, Iris, Pomme, Jasmin, Lila. » Lorsqu'il fut tout près d'elle, il lui demanda « Comment t'appelles-tu ? » « Je m'appelle Poirot et je porte une ceinture de fenouil. Je vis là, dans ton jardin. » À l'idée d'épouser une femme qui s'appelait Poirot, le jeune homme se sentit dégoûté de la tête aux pieds et il s'éloigna sans un mot, sans un regard. Un mois plus tard, il en épousait une autre. Ainsi sont les hommes. Mais la femme jardin l'avait aimé au premier regard et elle ne le quittait plus. Le jardinier, lui, ne la quittait pas des yeux. Un matin, elle lui demanda un service. Le jardinier accepta. Pour elle, il s'en alla dans les montagnes chercher des biches. Plus tard, à sa demande, il installa une grande baignoire au milieu des plates-bandes. Le soir, la femme jardin prit un bain bouillant de lait de biche. Elle resta des heures et des heures dans la baignoire avec le jardinier non loin qui l'observait. Or, comme à son habitude, le soir venu, le jeune homme bien né, bien fait, très fortuné et nouvellement marié était assis sur le banc à contempler les plates-bandes de son jardin potager. Il avait vu la femme jardin et s'en était grandement ému. Rentré précipitamment chez lui, il avait tout raconté à son épouse. Celle-ci n'avait rien dit, mais le lendemain matin, elle convoquait le jardinier et exigeait un troupeau de biches. À midi, il ramenait un troupeau de vaches. Le soir, dans sa maison, la femme de l'homme bien né, bien fait, très fortuné, prit un bain bouillant de lait de vache. Quelques heures plus tard, la malheureuse était cuite et l'homme se retrouva veuf. Mais l'histoire n'est pas finie, car la femme jardin l'aimait toujours. Ainsi sont les femmes. Sans doute, pour se consoler, le jeune veuf venait le plus souvent s'asseoir sur le banc pour admirer son jardin potager. Elle était là, resplendissante, au milieu des plates-bandes. De nouveau, toutes sortes de noms odorants lui montaient à la tête. Cette belle inconnue doit s'appeler Pomme, Iris, Cannelle, Lila, Rose, Jasmin. Et lorsqu'il fut tout près d'elle, il lui demanda « Comment t'appelles-tu ? » « Je m'appelle Poirot et je porte une ceinture de fenouil. Je vis dans ton jardin. » Hélas, le jeune homme avait tout oublié. À l'idée d'épouser une femme qui s'appelait Poirot, il se sentit dégoûté de la racine des cheveux jusqu'au bout des orteils. Sans un mot, sans un regard, il fit demi-tour et 15 jours plus tard, il en épousa une autre. La femme jardin ne s'avoua pas vaincue. Avec le temps, elle se rapprochait de la maison de l'homme bien fait, bien né, très fortuné et nouvellement marié. Un soir, elle s'installa sur le toit de la maison avec un métier à tisser. Elle chantait et la lune écoutait. Soudain, elle fit tomber sa navette juste devant la porte de sa maison. Sans hésiter, la femme jardin se coupa le nez et donna l'ordre à son nez d'aller chercher la navette qui était tombée. Le nez obéissant la rapporta sans difficulté et reprit sa place une fois sa mission terminée.
Comme si de rien n'était, la femme jardin se remit à tisser et à chanter. Cependant, le marié, réveillé par une voix qu'il avait l'impression de connaître, avait ouvert la fenêtre de sa chambre. Il avait tout entendu, tout vu, et c'était tellement incroyable qu'il avait à son tour réveillé sa femme dans le lit pour tout lui raconter. Sa femme s'était immédiatement rendormie. Mais le lendemain soir, à la nuit tombée, elle s'installait sur le toit de sa maison avec un métier à tisser. Tout en tissant, elle chantait et la lune écoutait. Elle fit également exprès de faire tomber sa navette devant la porte d'entrée de sa maison, puis se coupa le nez et lui donna l'ordre d'aller chercher ce qui était tombé. Hélas, tous les nez ne se ressemblent pas. Celui-ci n'était guère obéissant. On ne le revit plus jamais, la navette non plus. Quant à la deuxième femme de l'homme, bien née, bien faite, très fortunée, elle était morte, exsangue, vidée de tout son sang sur le toit de sa maison. Il se retrouva donc veuf pour la deuxième fois. Mais l'histoire n'est pas finie, car la femme jardin l'aimait toujours. Et un matin, tandis que le jeune veuf assis sur le banc contemplait ses plates-bandes, il la vit si jeune, si belle, si resplendissante, qu'il oublia tout. S'approchant d'elle pour la troisième fois, il lui demanda « Comment t'appelles-tu ? » « Je m'appelle Poirot et je porte une ceinture de fenouil. Je vis dans ton jardin depuis longtemps déjà. » Le jeune homme ne dit rien, mais au lieu de rentrer chez lui, il s'en alla dans la montagne et rencontra un porcher à qui il acheta un cochon. Il fit tuer l'animal, laissa la peau, mais rentra chez lui avec le sang du cochon dans un sac. Avec l'aide de son jardinier, il se barbouilla entièrement dessus-dessous avec le sang du cochon. Ainsi barbouillé, il s'allongea au milieu des plates-bandes du potager. La femme jardin vint à sa rencontre, se pencha vers celui qu'elle aimait plus que tout au monde et lui dit « Je m'appelle Poirot, je porte une ceinture de fenouil et je suis ta femme, lève-toi et va te laver. » Elle lui donna la main, et on ne sait que plus tard, ils sont partis loin. On dit aussi qu'ensemble, ils ont longtemps jardiné.
Tout compte fait. Tout compte fait.
Moi, si je savais comment résister au pouvoir de la tentation, oh, si je pouvais encore résister au pouvoir de la tentation, je vivrais dans un couvent, je ne sortirais pas souvent, effacé dans un monde épatant. Je dirais non en soufflant, je retiendrais mes élans. Est-ce assez pour pouvoir résister? Moi, si je voulais encore résister au pouvoir de la tentation, je rendrais muet mes désirs certains, je les assassinerais. Je refuserais l'attraction et je ferais diversion pour après ne jamais y penser. Je vivrai dans une fiction où l'autosatisfaction suivrait mon âme à volonté. Ou des équivalences, je me lierai d'amitié avec mes voeux condamnés et un jour je les laisserai crever. J'ai longtemps cherché comment résister au pouvoir de la tentation. J'ai enfin trouvé, maintenant je me dis, le mieux c'est d'y céder.
Tout compte fait.
Eh bien, nous allons céder à la tentation, comme la grande Sophie nous le propose. Nous allons continuer donc avec l'histoire du pois et du haricot. Alors c'est l'histoire d'un vieux et d'une vieille qui habitaient dans une petite maison entourée d'un charmant jardin, dans lequel se trouvaient un coq et une poulette. Un jour que le coq et la poulette grattent la terre comme à l'accoutumée, ils déterrent pour le coq un pois et pour la poulette un haricot. Le vieux, s'apercevant de cette trouvaille, prend le pois et le haricot dans sa main et les jette sans y porter grande attention. Le pois et le haricot se retrouvent dans la maison, sous le banc, près de la table de la cuisine, et aussitôt, ils se mettent à pousser. À pousser si bien que rapidement, ils arrivent à la hauteur du banc.
Que faire ?
Coupe le banc ! Aussitôt dit, aussitôt fait, le vieux scia le banc. Le pois et le haricot continuent de grandir si bien qu'ils arrivent rapidement à la hauteur de la table.
Que faire ?
Coupe la table ! Aussitôt dit, aussitôt fait, le vieux scie à la table. Le pois et le haricot grandissent toujours, ils grandissent tellement qu'ils touchent maintenant le plafond.
Que faire ?
Fais un trou dans le plafond. Aussitôt dit, aussitôt fait, le vieux fit un trou dans le plafond. Le pois et le haricot s'allongent encore et arrivent au toit de la maison.
Que faire ?
Fais un trou dans le toit. Aussitôt dit, aussitôt fait, le vieux fit un trou dans le toit de la maison. Vous vous doutez bien de la suite. Le pois et le haricot ne cessent pas de grandir. Les voilà maintenant qui montent si haut qu'ils en touchent le ciel.
Tu vois ce que je vois ? Notre pois et notre haricot sont montés jusqu'au ciel.
Eh bien, s'ils sont montés jusqu'au ciel, pourquoi n'irions-nous pas nous aussi ?
Et comment irons-nous ?
Il n'y a qu'à grimper. Aussitôt dit, aussitôt fait, le vieux et la vieille commencent de grimper, la vieille sur le pois et le vieux sur le haricot. Ils grimpent longtemps, longtemps, longtemps.
Arrive-t-on bientôt ?
Pas encore, c'est que c'est haut, le ciel, et ils ne sont pas au bout de leur peine. Arrivés enfin au sommet du pois et du haricot, le vieux et la vieille aperçoivent une petite maison à côté de laquelle se trouvent une grange et un beau verger.
Je crois que c'est la maison du bon Dieu.
Et timidement, le vieux et la vieille s'approchent de la maison et frappent à la porte.
Entrez, c'est ouvert.
Le bon Dieu était bien chez lui, dans son salon, en train de lire un livre.
Bonjour, merci de nous ouvrir ta porte. Nous venons de faire une grande ascension pour venir te voir. Nous permets-tu de dormir chez toi ce soir ? Nous sommes bien fatigués.
Bien sûr, vous pouvez dormir ici. Je ne vous demande qu'une seule chose. Ne touchez pas à mes galettes qui refroidissent dans la cuisine. J'ai de la visite prévue demain midi et ce sera le dessert.
C'est promis, nous n'y toucherons pas.
Le bon Dieu déplie alors le canapé du salon et le vieux et la vieille s'y installent pour dormir. Mais pendant la nuit, la vieille se réveille.
Elles sentent bon les galettes du bon Dieu. J'aimerais tant y goûter.
Non, non, il ne faut pas y toucher. Tu as entendu le bon Dieu. Je pense qu'il se fâcherait.
La vieille tente de se rendormir, mais n'y tenant plus, se lève quelques minutes plus tard et se rend dans la cuisine. Elle s'approche du plat, le touche, et aussitôt le plat se brise, les galettes redeviennent pâtes et coulent sur la table. Alors la vieille essaie de ramasser les morceaux du plat, mais la pâte coule entre ses doigts. Elle a beau essayer toute la nuit, elle ne réussit à rien. Au chant du coq, le plat redevient entier et la pâte reprend sa forme de galette. Le bon Dieu, réveillé, les cheveux encore ébouriffés, entre alors dans la cuisine.
Que faites-vous là ? Vous n'avez pas touché à mes galettes, j'espère ?
Oh non !
Je ne vous crois pas.
Et fâché, le bon Dieu renvoie le vieux et la vieille sur terre. Le lendemain, la vieille repense rêveuse à la maison du bon Dieu, à l'odeur des galettes et à leur aventure.
Eh, si on y retournait, juste pour la beauté du ciel.
Je reconnais bien là ton air. Mais je ne peux pas te refuser une aventure comme celle que nous avons déjà vécue.
Ils se remettent alors à grimper, le long du poids pour le vieux et du haricot pour la vieille, en direction du ciel. Le bon Dieu se tient dans son verger, un pinceau à la main devant une toile posée sur un chevalet. Le vieux et la vieille s'approchent de lui. « Bonjour, nous venons de faire la grande ascension pour venir te présenter nos excuses. Nous permets-tu de passer la soirée chez toi ? Nous sommes bien désolés. » Ah, le bon Dieu a bon cœur. Et tous les trois passent une soirée délicieuse. « Nous permets-tu de dormir chez toi ce soir ? Nous sommes bien fatigués. »
« Bien sûr, vous pouvez dormir ici. Je ne vous demande qu'une seule chose. Ne touchez pas à mes pommes. Je n'ai pas terminé de les peindre. »
« C'est promis, nous n'y toucherons pas. » Le vieux et la vieille s'endorment alors sous le grand pommier. Et pendant la nuit, la vieille se réveille. « Elles sont si belles, les pommes du bon Dieu, j'aimerais tant y goûter. »
« Non, 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 il ne faut pas y toucher. Tu as entendu le bon Dieu, il se fâcherait de nouveau. »
La vieille tente de se rendormir, mais n'y tenant plus, se lève quelques minutes plus tard et grimpe à l'arbre. Elle s'approche d'une pomme et aussitôt toutes les pommes de l'arbre tombent par terre. L'une d'entre elles atterrit sur la tête du vieux qui se réveille.
Oh, que fais-tu là-haut ?
Oui, bon bah trouvons plutôt une solution au lieu de se chamailler, hein. Et toute la nuit, le vieux et la vieille tentent de rattacher les pommes avec les cheveux de la vieille, mais les pommes ne tiennent pas et retombent par terre. Au chant du coq, les pommes reprennent place sur l'arbre. Le bon Dieu sort alors de chez lui pour faire son jogging et trouve les deux vieux l'air bien embarrassé.
« Quel est cet air étrange ? Vous n'avez pas touché à mes pommes, j'espère ?»«
Oh non !
Je ne vous crois pas !»
Fâché, le bon Dieu renvoie le vieux et la vieille sur terre. Le lendemain, le vieux repense rêveur à la maison du bon Dieu et à leurs aventures.
« Et si on y retournait, juste une dernière fois ?»
Sans un mot de plus, dans l'instant, les deux vieux commencent leur ascension vers le ciel, la vieille sur le pois, le vieux sur le haricot. Arrivés tout en haut, ils trouvent le bon Dieu dans la grange. « Bonjour, nous avions envie de grimper jusqu'au ciel et nous revoilà de nouveau chez toi. Nous permets-tu de passer la soirée ici ? Nous sommes bien désolés. »
« Bien sûr, vous pouvez passer la soirée avec moi ici. Je ne vous demande qu'une seule chose. » C'est de ne pas toucher à ma nouvelle charrette.
C'est promis, nous n'y toucherons pas. Et la soirée se passe, et la nuit et la fatigue arrivent. Le vieux et la vieille s'endorment dans la grange. Mais pendant la nuit, le vieux se réveille.
J'aimerais bien faire un petit tour dans le ciel avec la nouvelle charrette du bon Dieu, moi.
Oh, mais tu n'y penses pas, hein ? Il se fâcherait, tu le sais bien. Mais le vieux ne peut s'empêcher d'y penser. Et dans la nuit, il s'approche de la nouvelle charrette, s'assoit dedans. Et tout aussitôt, les quatre roues tombent en morceaux. Réveillée par le bruit, la vieille aide le vieux toute la nuit à remettre la nouvelle charrette en état. Mais il n'y arrive guère. Au chant du coq, les roues redeviennent entières et reprennent leur place. Le bon Dieu entre peu de temps après dans la grange et d'un seul regard sait que les deux vieux ont touché à sa charrette. Et sa colère est telle que le vieux et la vieille prennent leurs jambes à leur cou, glisse sur le pois et le haricot, et une fois arrivé sur terre,
sort ton lâche!
Voilà, chers auditeurs, il est temps pour nous de se dire au revoir. On espère que notre première émission de Tout compte fait vous a plu et vous donnera envie de nous suivre tout au long de l'année. On vous donne rendez-vous le jeudi 7 octobre à 9h10 sur Radio G pour une nouvelle émission de découverte et de partage. Daphné et moi, nous vous emmènerons en balade en Écosse pour l'occasion. Et n'oubliez pas, vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur le site radio-g.fr. On vous souhaite une bonne journée à l'écoute de Radio G et à très vite. Au revoir.
Au revoir.